Bonjour, vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 2 mars 1941, le serment de Koufra. En juin 1940, au lendemain de l'armistice, le capitaine Philippe de Hauteclocq franchit la frontière espagnole à Perpignan. Il atteint Barcelone, où il est arrêté et emprisonné par les autorités franquistes. Libéré quelques jours plus tard, il gagne le Portugal, où le consul de France à Lisbonne lui permet de s'embarquer pour l'Angleterre. Arrivé à Londres le 22 juillet, il se place sous les ordres du général de Gaulle et prend le patronyme de Leclerc. Promu lieutenant-colonel, il s'établit en Afrique équatoriale française le 26 août. Ce territoire est le plus jeune et le plus neuf parmi les possessions françaises. Il comporte 5 gouvernements, Tchad, Oubangui-Chari, Congo, Gabon et Cameroun, qui, sans faire partie du groupe, est lié à son sort. À la tête de la colonie, Félix Éboué prépare son ralliement à la France libre. De Gaulle lui envoie 4 représentants chargés de favoriser l'entrée dans la guerre de l'Afrique équatoriale. René Pleven pour le Tchad, Claude Étier de Bois-Lambert, Edgar de Larmina pour le Congo et Philippe Leclerc pour le Cameroun. Le Cameroun se rallie à la France libre tout comme les autres gouvernements de la Fédération. 2 500 000 km² de territoire, 4 ports, 6 villes, 4 millions d'habitants, plusieurs régiments combattants et d'énormes ressources se trouvent désormais entre les mains des Français de Londres. Devenu colonel le 2 décembre 1940, Philippe Leclerc est nommé commandant militaire du Tchad. Il s'installe à Fort Lamy, d'où il entame une tournée d'inspection de 10 postes stratégiques. Il contacte les forces britanniques établies en Égypte et en Libye. Il dispose de 2 escadrilles d'aviation basées à Bangui et composées de prototypes désuets, 2 bataillons de tirailleurs renforcés par 2 groupes nomades fixés au Tibesti et au Burku, des camions et des camionnettes achetés au hasard. Enfin, un canon de 75 et 2 canons de 37 mm d'antiques mitrailleuses Hotchkiss, ainsi que des fusils mitrailleurs 29 complètent cet armement. Leclerc entame la lutte contre les troupes italiennes. Avec audace et témérité, il porte le conflit dans le Fezzan et en Libye. Cette campagne militaire débute à Koufra, après une reconnaissance poussée menée par un détachement composé du lieutenant-colonel Colonna d'Ornano, du capitaine Massu, du lieutenant Hagenspieler, de 2 sous-officiers et 5 tirailleurs. Le 24 janvier 1941, une colonne de 400 hommes et 55 véhicules de tout genre, 10 blindés et un canon de 75 mm, quitte Faya-Largeau, humble capitale du Tibesti, pour progresser vers le nord. Le 28 janvier, elle atteint Unyanga. Le 31 janvier, elle se trouve à Toma. Quelques jours plus tard, elle gagne le puits de Sahra dans le désert libyen où les troupes françaises stationnent le temps d'une ultime reconnaissance qui permet de sonder les habitants, de repérer les défenses ennemies et de rapporter des documents importants. À l'aube du 17 février, la colonne se remet en marche. Elle avance dans le double embrasement du ciel enflammé et des sables brûlants. La nuit, elle s'immobilise sous la morsure d'un froid qui cingle les visages et engourdit les membres. 2 brefs mais violents combats disloquent la compagnie italienne Saharina di Koufra. Au terme de 19 jours de siège, Koufra est investi le 29 février. Deux jours plus tard, les troupes françaises hissent à la crête du fort libyen le drapeau tricolore. Du fin fond de cette Afrique désertique, Leclerc lance son serment « Nous ne nous arrêterons que lorsque ce drapeau flottera aussi sur Metz et sur Strasbourg. » C'est le premier message de victoire et d'espérance après les heures noires de la déroute et de l'abandon. Nous allons marquer une pause musicale avant de retrouver la chronique littéraire « Un jour, trois livres » qui a été préparée par Emmanuel et que j'aurai le plaisir de vous présenter après avoir écouté Michel Jonas. Son premier succès, c'était en 1974. Dites-moi.
Elle avait toujours dans son porte-monnaie l'île au trésor et des pièces de 1 franc usées. Un pinceau de poils de marte pour mettre des rideaux bleus aux fenêtres de ses yeux, aux fenêtres de ses yeux. Un livre à la main sur le balcon, elle s'endormait dans un vieux fauteuil de manille. Je cherchais des prénoms, Mathieu, Cécile, en regardant courir vers 10 heures dans l'école des filles et des garçons. Dites-moi, dites-moi même qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi. Dites-moi ça, dites-moi ça. Dites-moi, dites-moi même qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi. Dites-moi ça, dites-moi ça. Dans mon cœur vaudou, il y a 4 épingles qu'elle a pris soin d'abandonner pour que je pleure. J'ai cloué ma porte, qu'est-ce qui m'a pris? J'ai brisé le miroir où elle faisait ses tresses, mis du papier journal sous les fenêtres. J'entendais de l'école trop de cris, il n'est rien né de notre lit. Dites-moi, dites-moi même qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi. Dites-moi ça, dites-moi ça. Dites-moi, dites-moi même qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi. Dites-moi ça, dites-moi ça. Dites-moi, dites-moi même qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire, un jour, trois livres, préparé par Emmanuel, que j'ai le plaisir de vous présenter, en commençant par « D'or et de lumière ». C'est signé Karine Tanab aux éditions Belfond. Dans le décor agité de l'Indochine des années 1930, héritier de la riche famille Michelin, Victor Le Sage et sa femme Jessie sont envoyés à Hanoï pour reprendre en main les exploitations d'EVA, ces arbres au caoutchouc naturel si convoités. Mais l'Indochine des années 30 est au centre de tensions anticoloniales et de la révolte communiste. Victor va s'investir dans l'exploitation et Jessie se retrouve dans le milieu fermé des expats. Jessie, américaine, est une femme secrète qui va se révéler grâce à la parisienne Marcel de Fabry dans le Hanoï interlope, nimbé de vapeur d'opium. Mais l'histoire est en marche, celle de la chute du colonialisme et la renaissance des nations. D'or et de lumière, c'est signé Karine Tanab et c'est publié aux éditions Belfond. La fille de Joyce, d'Annabelle Apps, aux éditions Hervé Chopin. Lucia Joyce a été entourée de génies de la littérature. James Joyce était son père, Samuel Beckett, son grand amour. Sa personne était une énigme. En 1929, elle était l'étoile montante de la danse contemporaine à Paris. En 1934, à l'âge de 26 ans, elle est totalement brisée et disparaît de la vie publique, passant le reste de son existence enfermée dans des asiles psychiatriques. La plupart de sa correspondance et de ses dossiers médicaux ont été détruits. L'auteur va donner la parole à Lucia, une artiste sans œuvre, brisée par l'amour destructeur de son père et par la psychiatrie de l'époque. La fille de Joyce, d'Annabelle Apps, c'est aux éditions Hervé Chopin. Et pour terminer cette chronique, et par là même cette émission, héroïne au pluriel, de Sarah Jane Strafford, aux éditions Belfond. Nous sommes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. La peur rouge s'abat sur les États-Unis, et particulièrement sur le milieu artistique. Phoebe Adler, scénariste américaine, est bannie de Hollywood en raison de ses supposées accointances communistes, fruit d'affabulation d'un collègue jaloux de son talent. Face à la menace d'un procès, elle est obligée d'émigrer à Londres et de laisser sa sœur malade en Amérique. Elle va rencontrer Anna Volson, productrice américaine, victime elle aussi de dénonciation qui offre son aide aux artistes blacklistés. Elles décident toutes deux de prendre leur revanche sur le maccartisme et le sexisme à leur risque et péril. Héroïne de Sarah Jane Strafford, c'est publié aux éditions Belfond. Nous allons nous quitter en chanson avec toujours Michel Jonas, un titre de 1985, La boîte de jazz.
Prêt pour le bop, hey! Bebop. Dans un coin d'orgue bâti,
ça y est, je transpire. Timidité surhumaine. Et si c'était la chance de ma vie, je me lance, allez, tant pis.
Oh,